Dans une entreprise qui a changé de patron. Alors, où il y avait peut-être un très bon patron qui était là avant, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève, soit que le patron part à la retraite ou il obtient un poste ailleurs, ou que pour des raisons de santé, bon, il doit quitter son travail et qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la charge. Et c'est toujours quelque chose de difficile pour une organisation, pour un organisme, pour d'avoir un changement de leadership, d'avoir un changement de quelqu'un à la tête. Pour un pays aussi, c'est pas toujours évident, la transition d'un dirigeant à l'autre. Et dans mes lectures personnelles, je suis en train de lire le livre des Rois en ce moment. Puis la succession, surtout dans les rois d'Israël, une fois qu'il y a eu le schisme, la séparation, les 10 tribus du Nord, les tribus du Sud, les 10 tribus du Nord, à toutes les 2, 3 générations, il y avait le nouveau roi, il se faisait assassiner, puis il se faisait remplacer par quelqu'un d'autre. Mais donc, soit c'était son écuyer qui le tuait, puis qui prenait le trône, ou c'était quelqu'un d'autre. Mais la succession, et là je lisais, bon, Salomon aussi, la succession, c'est toujours un temps instable. Alors, est-ce que ça va s'affermir? Est-ce que le nouveau leader, il va recevoir est-ce que les gens vont le suivre? Ou bien, et puis la bonne question aussi, est-ce qu'il va être un bon leader? Ou bien est-ce qu'il va être là pour lui? Ou bien est-ce qu'il va être peut-être rempli de bonne volonté, mais il manque d'expérience ou il manque de compétences pour bien faire son travail. Un des personnages dans le Nouveau Testament qu'on voit qui était possiblement dans les plus compétents, les plus respectés, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait été envoyé par Jésus lui-même pour être un messager, pour annoncer l'Évangile, pour fonder des églises, pour établir des leaders. Et des fois, ensuite, Paul, lui, il devait continuer sa route et il laissait des leaders en place pour assurer la succession quand lui allait partir. Et ceux qui se ramassaient les leaders d'une église ou d'une région, peut-être avaient des grands souliers à remplir quand ça venait à être les représentants de l'apôtre Paul dans cette région-là. Eh bien, un tel personnage qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est le personnage de Tite. Tite, Tite, qui était un chrétien que Paul a mis en charge de s'occuper des églises de Crète, une grande île au milieu de la Méditerranée. Et Paul a dit à Tite de s'occuper de ces églises-là pendant qu'il devait partir et peut-être qu'il n'allait pas revenir non plus. Puis Paul, il était toujours prêt de se faire emprisonner et prêt de se faire mettre à mort aussi. Mais on voit dans la lettre, l'épître de Paul à Tite, cette charge-là que Paul a laissée à un de ses fidèles disciples, Tite. Et c'est un livre précieux, c'est un court livre du Nouveau Testament, c'est le livre qu'on va étudier pour les 7 prochains dimanches. Donc ce dimanche et ensuite pour les 6 prochains, on s'est dit qu'on ferait une petite série pour commencer l'automne. Badum! C'est pas moi qui l'ai inventé, mais alors ce matin, je vais juste vous présenter un peu ce livre-là, le livre de Tite, et ensuite on va regarder la salutation de Paul à son cher frère Tite, qu'il appelle même son enfant dans la foi. Donc, on va regarder les 4 premiers versets. Le livre de Tite, c'est un des 27 livres du Nouveau Testament. Donc, la Bible est faite c'est une bibliothèque de 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Tite, c'est un de ces 27 livres du Nouveau Testament. On classe les livres du Nouveau Testament en 3 catégories d'habitude. Donc, petit cours biblique pour vous ce matin. Alors, quelle serait peut-être la première catégorie? Un peu plus fort. Allez, osez. Les évangiles, très bien. Ensuite, dans le Nouveau Testament. Les épîtres, très bien. Les évangiles, les épîtres. Et ensuite? Apocalypse, OK, il manque Apocalypse et Actes. Donc, ces deux-là à placer. On peut placer les évangiles et Actes en 2 catégories différentes, ou on peut les appeler un peu les livres historiques, les livres d'histoire. Alors, on met les 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus, et le livre des Actes des apôtres, qui raconte le début de l'Église, après que Jésus soit mort, ressuscité et retourné au ciel. Et ensuite, on a la majorité des livres du Nouveau Testament. On a 21 livres du Nouveau Testament qui sont les épîtres. Les épîtres, c'est juste c'est du vieux français pour dire lettres. Donc, c'est des lettres. Mais c'est un terme qu'on utilise souvent pour parler des lettres du Nouveau Testament, les épîtres. J'utilise le terme de façon interchangeable. Et il y a l'Apocalypse, un livre unique en son genre qui a été écrit par l'apôtre Jean vers la fin de sa vie pour encourager les églises qui faisaient face à la persécution et parler de la fin des temps dans un style, dans un genre littéraire qu'on appelle le genre apocalyptique qui est rempli de langage métaphorique. On ne se lance pas dans l'Apocalypse tout de suite. Un jour peut-être. Mais ça, c'est un livre unique en son genre dans le Nouveau Testament. Donc, on a 21 lettres qui ont été écrites par les apôtres. Et de ces 21-là, 13 écrites par l'apôtre Paul. Alors, il y a différentes façons de diviser ces lettres-là, mais une façon bien commune de regrouper certaines lettres de Paul, c'est les lettres qu'on appelle ou les épîtres pastorales. Quelles sont, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les épîtres pastorales. Qu'est-ce que ça veut dire, les épîtres pastorales? C'est qu'elles ont été écrites, non pas à des églises, mais à des gens qui jouaient un rôle de pasteur. Pasteur amène l'adjectif pastoral, et donc les lettres écrites à des pasteurs. Qu'ils étaient plus que des pasteurs, ils étaient un peu des représentants de l'apôtre Paul, ce sont Timothée et Tite. Donc les trois épîtres pastorales sont 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et Tite, c'est la plus petite de ces lettres-là. C'est la plus petite, oui, c'est ça. Alors, on connaît un peu Timothée, peut-être si vous avez été à l'église depuis un certain temps. Timothée, OK, il est question de lui un peu dans les Actes des Apôtres. On a quand même 2 bonnes lettres écrites à Timothée, donc on sait un peu de choses sur lui. Mais Tite, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On a pas beaucoup de chair à mettre autour de ça, de qui il était, c'était quoi son arrière-plan, c'était quoi sa relation avec l'apôtre Paul. Savez-vous, son nom n'est même pas mentionné dans les Actes des Apôtres. Alors, ce qu'on sait sur lui, il reconstruit un peu des différentes lettres que Paul a écrites. Probablement que Tite, c'est un grec. Donc, le nom Tite, c'est un nom grec, Titos en grec. Et il s'était converti à la foi chrétienne, probablement par le ministère de Paul, et Paul l'a pris sous son aile, l'a formé pour le ministère, l'a amené avec lui dans ses voyages. On voit dans Galates, chapitre 2, que Paul avait amené Tite avec lui pour rencontrer les apôtres à Jérusalem et leur démontrer que Dieu était en train d'opérer une œuvre de salut, même parmi les non-juifs. Et Tite, lui, qui était pas juif, lui... Peut-être qu'il craignait Dieu, qu'il craignait l'Éternel, le Dieu des Juifs, mais lui n'était pas circoncis. Et lorsque Tite est amené à Jérusalem devant les apôtres, Paul, il dit aux Galates, Tite n'a pas eu besoin de se faire circoncire. C'est peut-être un peu privé comme information, mais à cette époque-là, il y a beaucoup de Juifs, même chrétiens, qui disaient, « Ah, mais si tu deviens chrétien, il faut que tu te fasses circoncire. » Parce que c'était ça que... par Abraham, là, Dieu avait donné le signe de la circoncision à Abraham comme signe qu'on fait partie du peuple de Dieu. Puis Paul, dans l'Épître aux Galates, pour ceux d'entre vous qui l'avaient étudié, il dit, non, Abraham a reçu la promesse avant même de se faire circoncire. Et c'est sa foi qui l'a sauvé. C'est par la foi qu'il est devenu enfant de Dieu, qu'il a été justifié. Et c'est la même chose maintenant, par la foi en Jésus. Pas besoin de circoncision. Circoncis, pas circoncis, ça ne dérange pas. On est égal devant Dieu, on est égal dans son Église. Alors, ce n'est pas un débat dans notre Église, ce n'est pas un débat dans notre famille d'Église, est-ce que tu es circoncis ou pas? Puis, peut-être que c'est de l'information qu'on garde pour soi, à juste titre, mais on pourrait avoir toutes sortes d'autres raison de se diviser à tel sujet de division, tel sujet de division. Il y en a qui sont justes. Et comme on va voir dans Tite, il y a des faux enseignements, des fois qu'il faut faire taire. Des gens qui ont dit non, là, t'es pas en train d'enseigner selon la Bible, t'es pas en train d'enseigner selon l'Évangile. Et C'était une des lourdes tâches que Tite avait à faire, malgré probablement son jeune âge, que de reprendre les contradicteurs, selon les mots de Paul. Tite avait été aussi l'envoyé spécial de Paul auprès de l'église de Corinthe. Si vous avez déjà lu les deux lettres aux Corinthiens, c'est parmi les lettres les plus difficiles à interpréter du Nouveau Testament. Il y a toutes sortes de questions difficiles à comprendre, mais on se rend compte aussi qu'il y avait toutes sortes de problèmes dans l'église de Corinthe. Et dans 2 Corinthiens particulièrement, on voit que Paul avait envoyé Tite pour être son représentant auprès de l'église de Corinthe, pour essayer de calmer les ardeurs, puis il y a des gens là-dedans qui voulaient plus de Paul comme apôtre, ils avaient des meilleurs, des super apôtres, et là Tite allait pour essayer de rebâtir les liens. C'était une mission difficile, ça prouvait que Paul avait grande confiance en Tite que de l'envoyer pour ça, à plus d'une reprise. Et notre lettre, la lettre de Tite, à quel moment est-ce que ça se situe? Si on regarde le ministère de Paul dans les Actes des Apôtres, on voit que Paul a fait au moins ce qu'on appelle 3 voyages missionnaires. Et son troisième, c'était un peu moins un voyage missionnaire, c'était plus en direction vers Rome, où il était prisonnier, il allait comparaître devant César. Et le livre des Actes des Apôtres finit avec Paul qui est prisonnier à Rome, mais avec une certaine liberté. Et pendant 2 ans, il encourage les frères, il témoigne de l'Évangile, et ensuite, on n'a pas la suite. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec Paul. Alors, est-ce qu'il a été mis à mort? Est-ce qu'il a été relâché? On sait que Paul a fini par être mis à mort. Mais est-ce que c'est à ce moment-là? La majorité des historiens, des exégètes du Nouveau Testament, donc ça ne fait pas unanimité, mais l'hypothèse classique, c'est que Paul aurait été relâché après ce moment-là. Dans Philippiens, qui a été écrit à cette époque-là, Paul, il a l'espérance d'être relâché pour retourner voir les Philippiens. Et les exégètes imaginent que Paul a probablement été libéré, qu'il a pu exercer un ministère encore pendant quelques années, peut-être pendant 2-3 ans, et que c'est pendant ces années-là qu'il serait allé avec Tite en Crète, l'île grecque au milieu de la Méditerranée, où il serait allé pour encourager les chrétiens, pour évangéliser. Et il aurait laissé Tite là pour mettre en ordre les choses qu'il avait à mettre en ordre et lui avait dû continuer son chemin. Et c'est quelque temps après ça qu'il aurait été réemprisonné une deuxième fois à Rome et finalement qu'il a écrit probablement sa dernière lettre, la deuxième lettre à Timothée. De Timothée, Paul parle que sa mort est imminente et il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne m'est réservée. » Et probablement, à cause de ce langage-là, on estime que c'est probablement la dernière lettre que Paul a écrite quelque temps avant qu'il soit finalement mis à mort. Donc, ça nous situe un peu dans l'histoire de Tite, dans l'histoire de Paul. Et c'est dans ce contexte-là que Paul, qui était encore en liberté, a écrit cette lettre-là à Tite. Et probablement dans ce temps-là qu'il a écrit la lettre 1 Timothée aussi. Les deux lettres, 1 Timothée et Tite, se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de points communs entre les deux lettres. Et ça vaut la peine, si vous lisez Tite cette semaine, de lire 1 Timothée en même temps. Et je pense qu'on va souvent faire des parallèles entre les deux parce qu'elles sont très proches, s'éclairent. Ces deux lettres s'éclairent une l'autre. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. On va ouvrir l'épître de Paul à Tite. Alors, si vous partez de la fin de votre Nouveau Testament, il y a Apocalypse, Jude, les 1, 2, 3 Jean, 1, 2 Pierre, Jacques, Hébreu, la toute petite lettre à Philémon et ensuite Tite. Là, je suis allé par en arrière, si vous allez dans ce sens-là, mais c'est une des dernières lettres de Paul, l'avant-dernière lettre de Paul dans l'ordre des lettres du Nouveau Testament. C'est pas une grosse lettre. C'est 45 versets en tout. Donc, c'est le cinquième plus petit livre du Nouveau Testament. On va lire les 4 premiers versets. La salutation de Paul à son bien-aimé collègue, qu'il appelle même son enfant dans la foi. Tite. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour le message de la vie éternelle que tu nous as confié, que tu as confié à notre frère Paul et aux autres apôtres il y a plusieurs années. Merci, Seigneur, de leurs témoignages écrits qui demeurent. Merci d'avoir inspiré leurs écrits, de les avoir préservés. Merci de ce qu'on peut les avoir dans notre langue, Seigneur, dans nos mains. On prie que tu puisses éclairer nos cœurs ce matin, alors qu'on plonge nos regards dans ces quelques versets de l'Épître de Paul à Tite et dans les prochaines semaines. Alors qu'on cherche à connaître ta volonté pour nous, pour notre Église, Seigneur. On te prie que ce ne soit pas purement un exercice intellectuel, loin de là, mais que par ton esprit, tu appliques à nos cœurs et nos vies les vérités qui s'y trouvent. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, l'apôtre Paul commence pas mal toutes ses lettres en se nommant lui-même. Donc, pour dire de qui vient la lettre. Et il dit Paul ou de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Paul avait une très grande autorité. Il avait fondé beaucoup d'églises. Il était possiblement, Paul et Pierre sont considérés comme les deux apôtres principaux fondateurs de l'Église de Jésus. Et Paul ne parle pas en son nom. Paul ne parle pas en fonction de sa propre autorité, en fonction de ce que lui-même a accompli dans son ministère. Il se présente comme serviteur de Dieu et comme apôtre, non pas de son propre message, mais apôtre de Jésus-Christ. Le premier terme qu'il utilise, serviteur de Dieu, on pourrait aussi le traduire esclave de Dieu. Paul ne se considère pas comme, ou même s'il est apôtre que Dieu l'a placé pour une mission spéciale, en premier, il mentionne qu'il est esclave de Dieu. Ou souvent, dans le Nouveau Testament, il parle d'être esclave de Christ et il se place, lui, le premier, comme subordonné à Jésus. Et il est apôtre de Jésus-Christ. C'est un terme, le terme serviteur de Dieu, c'est un terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner de grands leaders, comme Moïse, comme Josué. Mais l'Ancien Testament souvent parle d'eux, non pas comme le grand conquérant Moïse, mais Moïse, le serviteur de Dieu. Il y a une grande leçon d'humilité pour nous, à ce niveau-là. On pourrait se voir comme, oh, on aimerait ça, oh, notre titre, ce que les autres pensent de nous, ce que nous-mêmes pensent de nous, ce qu'on pense nous-mêmes de nous, ça peut avoir beaucoup d'importance dans notre vie. Mais ce qui fait le plus plaisir à Paul de mentionner en premier, c'est qu'il est serviteur de Dieu, que Dieu l'a choisi pour être son serviteur. Et c'est un grand privilège pour lui. Et Paul, il continue en nommant deux raisons pour lesquelles Dieu l'a choisi pour être apôtre. Donc, il dit qu'il est serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Et ensuite, il mentionne deux raisons pour lesquelles Dieu l'a placé comme apôtre. Il est apôtre de Jésus-Christ pour deux choses. Alors, dépendamment comment c'est traduit, si c'est une version un peu plus... voyons, mot pour mot, comme la colombe, ça dit « pour la foi des élus de Dieu ». Et la connaissance de la vérité conforme à la piété. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et chaque mot est riche. On pourrait passer quelques minutes à ressortir chaque mot. Mais la première chose qu'il dit, c'est pour la foi des élus de Dieu. Il a été placé comme apôtre pour la foi de ceux que Dieu a choisis, de ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Pour ça, la version que j'utilise normalement pour prêcher, la seconde 21, elle ajoute un peu de chair autour de ça pour mieux comprendre. Ça dit « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi. » Donc, apôtre pour la foi des élus de Dieu, Dieu m'a établi apôtre pour amener à la foi ceux que Dieu a choisis. C'était la charge de Paul comme apôtre. Mais ce n'était pas seulement la charge de Paul. Par lui et tous les disciples de Jésus, c'est notre tâche aussi d'amener à la foi ceux que Dieu a choisis avant la fondation du monde. On ne les connaît pas, c'est pour ça qu'on partage avec tous. On ne connaît pas d'avance ceux qui vont recevoir le message, ceux qui ne le recevront pas. Peut-être que certains vont être opposés de façon virulente pendant des années, comme Paul lui-même l'a été, persécutant les chrétiens, mettant à mort les chrétiens. Mais en son temps, le Seigneur est venu le chercher et a fait de lui un messager pour parler à d'autres, pour amener à la foi les élus de Dieu. Et non seulement à la foi, mais aussi à la maturité spirituelle. C'est ce qu'il dit, la connaissance de la vérité conforme à la piété. Alors, on va déballer ça dans le restant de l'épître aussi. Il va être question de vérité, parce qu'il y a des faux docteurs, il y a des gens qui enseignent de s'attarder à toutes sortes de choses peu importantes. Et Paul dit, c'est la vérité qui est importante. Et même les gens de Crète étaient connus apparemment pour être des menteurs. Donc, au verset 12, Paul cite un auteur crétois, Épiménide, de 600 ans auparavant, qui dit... Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Alors, c'est pas très reluisant comme façon de mettre dans votre CV, là, les deux premières phrases dans votre CV. De Crète, toujours menteurs, méchantes bêtes, goinfres paresseux. Alors, je connais pas le contexte dans lequel Épiménide avait écrit ça, mais Paul connaissait cet écrit-là. Et probablement que les Crétois continuaient à avoir cette réputation-là que d'être des menteurs, de détourner la vérité. Puis Paul dit qu'il veut amener les élus de Dieu à la connaissance de la vérité. Et une vérité qui se manifeste pas simplement dans la tête, mais par une vie de piété, par une vie d'obéissance, par une vie qui montre que Dieu est notre maître. Et on va voir dans la lettre, il y a beaucoup de choses très pratiques que Dieu nous appelle à faire, que Dieu nous encourage par cette lettre à mettre en pratique dans notre vie. Et ensuite, on arrive au verset 2. Et la base de ces choses-là, ou la raison d'être pour amener les chrétiens à la foi, ou les élus de Dieu à la foi, à la maturité spirituelle, donc à la connaissance de la vérité, et Paul continue, « afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. » Est-ce que ce serait un peu présomptueux de notre part de dire qu'on veut amener les gens, c'est notre désir, c'est mon désir, que les gens que j'aime, que les gens autour de moi puissent découvrir Jésus-Christ, puissent découvrir sa parole, puissent apprendre à l'aimer, puissent devenir des disciples de Jésus. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est juste pour Dieu? Est-ce que je suis égoïste là-dedans? Peut-être, à moi de mettre mon cœur à la lumière de Dieu. Mais ça, c'est pour l'espérance de la vie éternelle. Il n'y a rien de mieux qu'on pourrait vouloir pour les gens autour de nous, n'est-ce pas? Qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, qu'ils puissent partager dans cet espoir inouï que Dieu nous offre par l'Évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, espérance? Souvent, le mot en français, espérance, donc j'espère quelque chose, c'est... Des fois, on peut parler d'un espoir incertain, comme j'espère que ma santé va s'améliorer. ou j'espère que mes enfants vont trouver des bons amis à l'école. Si vous avez des enfants qui changent d'école, c'est toujours une période de transition difficile. J'espère qu'ils ne se feront pas harceler ou que s'ils ont de la misère avec des amis à l'école, que ça va arrêter d'arriver. Ou peut-être pour quelque chose de vraiment très, très important, j'espère que mon équipe de sport va gagner son match ce soir ou que les Canadiens vont se rendre en série ou que ça va être la coupe cette année. Donc, mais surtout quand on parle des Canadiens, l'espérance, c'est loin d'être une certitude. Donc, ce sont des choses qu'on espère, mais pour lesquelles on n'a pas de certitude. Cependant, est-ce que c'est ce que Paul est en train de dire quand il parle de l'espérance de la vie éternelle? J'espère la voir, mais qui sait? Le sens du mot « espérance » dans le Nouveau Testament, c'est une certitude. C'est l'attente confiante qui est basée sur la promesse de Dieu. C'est l'espérance dans le Nouveau Testament, c'est l'attente confiante qui est basée sur les promesses de Dieu. Et c'est pourquoi Paul, il continue, il dit, au verset 2, là, regardez avec moi, « Afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, le Dieu qui ne ment pas, lui, contrairement aux Crétois, le Dieu qui ne ment pas, l'avait promise avant tous les temps et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée. » C'est une espérance qui est une certitude basée sur les promesses de Dieu. Vous savez, l'attente confiante de la vie éternelle, c'est quelque chose qui change complètement notre vie. De jeter nos regards vers la vie éternelle, vers l'espérance, l'attente confiante de la vie éternelle que Dieu nous réserve, qui réserve à ses enfants, ça change notre vie. D'abord, ça nous aide à garder nos priorités à la bonne place. Ça nous aide à ne pas mettre l'accent dans nos vies sur notre confort, sur faire plus d'argent, sur avoir une promotion, sur avoir des bonnes notes, sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi, sur mon bien-être terrestre. Mais ça nous amène à jeter nos regards, à placer en priorité celui qui nous a sauvés et l'éternité qui nous réserve. L'espérance de la vie éternelle replace nos priorités. Deuxièmement, l'attente confiante de la vie éternelle revigore notre capacité à supporter nos douleurs et nos souffrances ici-bas, sachant qu'elles ne durent qu'un moment comparé à l'éternité qui nous attend. Plusieurs d'entre vous, bon, on a mentionné des choses dans les annonces tantôt, vivez des moments de deuil, vivez des moments de souffrance dans votre corps. Notre sœur Myrlène, qui a perdu sa sœur. D'autres choses que vous vivez, qu'on n'a pas mentionnées, ou que peut-être vous seul connaissez. Je vous invite, et la parole de Dieu vous invite par sa parole, à jeter vos regards sur la certitude de la vie éternelle qui vous attend. Jetez nos regards vers la fin, vers ce qui nous attend. Revigore nos forces, notre confiance, pour faire face aux moments de peine, aux moments de douleur, aux souffrances qui nous attendent, jour après jour. Mais le Seigneur est fidèle. Et jour après jour, il renouvelle sa grâce. Jésus nous rappelait, un jour à la fois, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain va prendre soin de lui-même. » Et troisièmement, l'espérance de la vie éternelle nous incite à partager cet espoir incomparable. Les trois choses que j'ai mentionnées, ça, l'espoir de la vie éternelle, ça nous aide à garder nos priorités à la bonne place, à ne pas avoir les regards sur la progression dans notre vie, sur ce que les autres pensent de nous, sur notre confort, notre bien-être terrestre, mais à ce que Dieu soit le maître, le roi de nos vies. Deuxièmement, ça nous fortifie dans nos moments de douleur et nos souffrances ici-bas. Et troisièmement, ça nous incite à partager cet espoir incomparable. Car comme on l'a vu la semaine passée avec Mario, pour ceux qui étaient là, la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu qui ne peut pas se gagner ni se mériter. Et la première chose qu'il faut pour hériter de la vie éternelle, c'est de reconnaître que vous n'en êtes pas digne, que vous ne pouvez pas la mériter vous-même, que vous ne pouvez pas la gagner par votre piété, par vos bonnes œuvres. Il faut reconnaître notre indignité et notre état de pécheur devant Dieu. Reconnaître que nous avons fait naufrage, que nous n'avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, que nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, que nous en sommes incapables. Peut-être que nous avons cherché notre identité, notre raison d'être dans toutes sortes d'autres choses que le Créateur, mais nous l'avons cherché dans la création, dans ses créatures. À cause de nos péchés, à cause de notre égarement, de notre rébellion, on se retrouve à la fois sous le jugement de Dieu et éternellement insatisfait. De toutes ces choses qu'on poursuit pour avoir le bonheur, c'est des bonheurs, un bonheur illusoire, c'est un plaisir qui ne dure pas, qui a sans cesse besoin de plus. C'est pourquoi nous avions besoin d'un sauveur. Le sauveur dont il est question, il est mentionné au verset 4. Jésus-Christ, notre sauveur. Celui que Dieu a envoyé, son Fils éternel, venu mourir à la croix, à notre place, ayant vécu une vie parfaite, ressuscité d'entre les morts, offert sa vie en sacrifice, son sang coulé à la croix, comme on s'en est souvenu tantôt, par les chants, par le repas du Seigneur. Et si tu reconnais ton état de pécheur, que tu ne peux pas mériter la grâce de Dieu, mais que tu demandes à Dieu de te pardonner, de changer ta vie, que tu t'attaches à, que tu places ta confiance en Jésus seul et non plus en toi-même, Dieu nous promet l'espérance de la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, l'adoption dans sa famille. Et ça, Dieu l'avait prévu d'avance, il l'avait annoncé d'avance, avant le début des temps, comme ça dit, avant tous les temps au verset 2, et il l'a révélé particulièrement dans la personne de Jésus lorsqu'il est venu, par les apôtres qui ont prêché son message. Et cette parole, Paul doit la prêcher. Il dit au verset 3, « Et au moment voulu, Dieu a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. » Dieu lui a ordonné de prêcher la parole de Dieu. Cette parole-là, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle qu'un Sauveur nous a été donné. Et Paul était chargé d'annoncer l'Évangile. Et nous le sommes aussi. On n'est possiblement pas appelé à faire le tour de l'Europe pour fonder des églises, pour prêcher dans des lieux publics, comme Paul le faisait. La question, ce n'est pas « est-ce que j'ai une part dans le plan de Dieu pour amener des gens à la foi? » La question, c'est plus « quelle est ma part? Comment puis-je contribuer? Comment est-ce que tu veux m'utiliser, Seigneur, pour amener des gens à la connaissance de ton Fils? » Dieu a fait de chacun de ses disciples des témoins. La parole que Jésus a laissée à ses disciples, qu'on répète souvent, mais que c'est important de se souvenir, dans Actes 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, nous devons garder en tête l'espérance de la vie éternelle, qui nous appelle à renoncer à notre confort pour rechercher au lieu les trésors célestes. Vous savez, à part de Dieu lui-même au ciel, le plus grand trésor qu'on va avoir, c'est les autres qui vont être avec nous. C'est les gens, c'est nos frères et sœurs qu'on aura côtoyés dans la vie, c'est les gens à qui on aura témoigner par une bonne œuvre, par une bonne parole, par un grand sacrifice de soi, possiblement. Et de voir ces gens-là, les avoir avec nous pour l'éternité, pour adorer l'Éternel, ça va être ça les plus grands trésors. Ça ne sera pas des spas, des sofas super confortables. Moi, quand j'étais petit, je rêvais, là, les premières fois que j'ai fait des montagnes russes, je me disais « Wow, si elle va avoir plein de montagnes russes, ça va être génial! » Mais les trésors célestes, c'est les bénédictions de Dieu, ce qui nous attend d'avoir souffert pour lui, de lui avoir obéi. Mais Je pense qu'une des plus grandes bénédictions qu'on va avoir au ciel, c'est de voir les gens qui seront venus à la foi par le petit peu ou le grand peu que nous aurons fait dans cette vie. Nous sommes, comme Paul, chargés d'annoncer l'Évangile à ce monde qui se perd. J'aimerais terminer simplement avec quelques encouragements, quelques applications. Comment on peut mettre ça en pratique? Premièrement, c'est de ne pas s'enfermer. On vit dans une société qui est très individualiste. On aime être chacun dans notre cinéma maison et pouvoir profiter de nos divertissements sans être dérangé. Mais on peut penser au-delà de ça. Le Seigneur n'est pas contre le repos, hein? Il avait donné un jour de repos, pas de travail. Alors, le Seigneur, c'est pas que le Seigneur est contre le repos puis il dit travaillez jusqu'au burn-out, sinon vous n'êtes pas digne. Non, le Seigneur n'est pas contre le repos. Au contraire, c'est une façon de limiter dans ce repos-là. Mais le Seigneur, il nous appelle au zèle pour l'Évangile. Il nous appelle à sortir. Alors, je vous invite à sortir, à participer à la vie de votre ville. À participer à... Bon, un bon exemple, c'est... Là, c'est facile pour moi de le dire ce matin. Il y a une belle fête qui a lieu, de sortir à l'extérieur. Peut-être que ça vous fait peur d'aller avoir des amis, des gens. Mais non, je vais être obligé de leur parler. Vous n'êtes pas obligé de leur parler du Seigneur. Mais quand nos regards sont sur la vie éternelle, sur l'espérance de la vie éternelle, c'est une des choses qui sort de nos cœurs. Cette joie-là, de pouvoir partager ça d'une façon qui vient dans nos relations. Cultivez des relations intentionnelles avec les membres de votre famille, avec vos collègues de travail, avec vos voisins, avec les gens qui sont autour de vous. Cultivez des amitiés au lieu d'être enfermés chez nous, passez du temps avec eux. Priez pour eux, intéressez-vous à eux, comment va leur vie. Si le Seigneur permet, versez une parole, une prière, est-ce que je peux prier pour toi? Le faire avec eux à ce moment-là. Une autre chose qui sera peut-être pas pour tous, mais dans les prochaines semaines, si vous êtes disponibles les samedis matins, donc pas samedi prochain, mais dans deux samedis, allez évangéliser au parc Wilfrid Bastien devant. Hier matin, on était deux, Monique Dufresne et moi, on a eu du bon temps. On a eu des belles conversations, avec, surtout avec deux personnes. Une dame qui était là avec son enfant, puis un monsieur, on a jasé 30-40 minutes avec chacun des deux, c'est bien agréable. Et on a pu leur partager l'Évangile, leur laisser des contacts, l'information de contact de notre Église. Alors, si vous êtes disponible, samedi dans deux semaines, puis on va le réannoncer dimanche prochain, de venir avec nous pour témoigner à des gens que le Seigneur amènera dans le parc dans deux semaines. Mais notre évangélisation ne peut pas se limiter simplement à une activité qu'on fait deux heures ou deux semaines ou par mois. Mais à la mesure où nos regards sont sur l'espérance de la vie éternelle, une des choses que ça transforme dans nos vies, c'est que ça nous amène à parler librement de celui qui nous donne cet espoir, de ce qu'il a accompli pour nous. En conclusion, au verset 4, Paul dit, à titre, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Tite avait une mission difficile. Il recevait cette lettre-là, il devait mettre des choses en ordre, il devait reprendre des gens probablement plus vieux que lui, il devait enseigner à toutes sortes de gens, à du monde plus jeune, à du monde plus vieux, il devait reprendre des gens, il devait mettre en poste des anciens, comme on va voir la semaine prochaine. Peut-être qu'à travers tout ça, Tite se sentait ébranlé, un peu pas sûr. Des fois, oui, ça allait bien, mais des fois, ouf, la tâche est plus grande que moi. Et peut-être que vous faites face à certaines choses, vous vous dites, ah, dès que je sors de l'église, OK, je suis là pour le matin, mais après, j'ai ça à faire au travail demain matin, j'ai tel dossier ou tel collègue qui m'attend. Je prie, et Paul prie, l'Esprit prie cette prière pour vous. Que la grâce et la paix vous soient donnés cette semaine, dès ce matin, et éternellement, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez bénis.
Benoît pour ce message. On va se lever. Finir notre culte pour tous ceux et celles qui ont l'assurance de la vie éternelle. On peut vraiment chanter que dans mon âme, un beau soleil brille, basé sur cette espérance. Donc pour les hauts, ceux qui me connaissent, donc on va faire des points d'or, on va allonger le haut. Dans mon âme un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil. Je souhaite une belle semaine. Il fait beau soleil, en tout cas, je crois, après les rayons. Et pour tous ceux qui vont à la fête de quartier, c'est juste en face. Je pense qu'il y a du blé d'Inde et vous pouvez y aller. Donc, bonne semaine à tous.